Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. C'est un geste important dans une conjoncture difficile, propos de l'historien Benjamin Stora après la visite officielle du président de la République hier à la Grande Mosquée de Paris. Nous écouterons Benjamin Stora. La France a rapatrié la nuit dernière 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Une annonce aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères. Une nouvelle séance parlementaire s'est tenue ce matin pour tenter d'élire un chef de l'État au Liban. Il n'y a pas eu de consensus sur un candidat. Prochaine séance lundi prochain. Comment la ville d'Alger et ses habitants étaient-ils représentés par les colons au cours de leur voyage dans cette ville au XIXe siècle? Notre invité sera Siem Bella, professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Roubaix et doctorante en histoire contemporaine. L'invité de Pluriel hier soir était Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du Parti communiste. Il est revenu sur la question du manque de conducteurs de bus en région parisienne, extrait dans votre édition. Des centaines de milliers de musulmans ont combattu pour la France durant la Première Guerre mondiale. Des dizaines de milliers y sont morts, versant leur sang sur un sol qui n'était pas le leur pour une cause qu'ils servaient comme la leur. Des mots hier du président français. Emmanuel Macron s'est rendu à la Grande Mosquée de Paris à l'occasion du centenaire de la pose de la première pierre de l'édifice en 1922, un bâtiment construit en hommage aux soldats musulmans morts pour la France pendant la Grande Guerre. Cette visite du président français hier est un geste important dans une conjoncture difficile, nous dit l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie, rapport remis à Emmanuel Macron en janvier 2021. Benjamin Stora.
C'est un geste important dans une conjoncture que nous connaissons tous, qui est une conjoncture difficile, qui vise à séparer, à opposer les communautés entre elles. L'intervention du chef de l'État, sa présence ici à la Grande Mosquée de Paris, témoigne précisément de la nécessité de contrer ou d'empêcher, disons, tous ces discours de séparation, d'opposition, de haine. Parce que, en venant ici, il dit l'ancienneté, l'enracinement, la présence d'un islam de France, qui était quand même là depuis la fin de la Première Guerre mondiale, notamment à cause du sacrifice de soldats, et soldats venant notamment du Maghreb, qui ont versé le sang, comme on dit, pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette grande mosquée de Paris a été construite. C'était une forme d'hommage à tous ces soldats et travailleurs coloniaux de l'époque. Avec d'ailleurs, il y a eu aussi en même temps l'hôpital franco-musulman de Bobigny, etc. Donc il y a quand même une présence, une présence de l'islam en France, et sa présence vise, disons, à dire cet enracinement ancienne, et cette présence ancienne pour ceux qui aujourd'hui, je pense, voudraient essayer de la remettre en cause en expliquant que on ne peut regarder tout ça qu'à la lumière de ceux qui arrivent, de ceux qui viennent tout juste d'arriver. Or, ils ne sont pas tout juste viennent d'arriver, entre guillemets. Les musulmans de France ont une culture ici en France depuis longtemps.
C'est pourquoi la présence du président de la République ici au sein de la Grande Mosquée de Paris, c'est important pour la cohésion nationale.
Je pense qu'effectivement, manifester son attachement à la présence d'un lieu religieux, certes, mais qui a aussi un caractère civilisationnel. La Grande Mosquée de Paris, elle est surtout connue par les Parisiens, par les Français en général. Il y a beaucoup de visiteurs parce que c'est un lieu non seulement de religion, mais de civilisation et de culture. Donc cette présence, évidemment, pour moi, elle est extrêmement importante.
L'historien Benjamin Stora. La célébration à la Grande Mosquée de Paris a commencé par une visite par le chef de l'État, accompagné de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de l'ancien président Nicolas Sarkozy, d'une exposition sur l'histoire de la Grande Mosquée. Lors de cette visite, Emmanuel Macron a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur au recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Chemseddine Hafiz. Emmanuel Macron, qui a prononcé un discours devant plus d'une centaine d'invités, il s'est notamment exprimé sur la laïcité avec ses propos. À l'heure où la laïcité est battue en brèche, notamment dans nos écoles, je veux aussi saluer le courage de tous ceux qui, à l'exemple des mosquées du Rhône et par l'intermédiaire du recteur Captane, vous-même aussi, monsieur le recteur, ont dénoncé ces derniers, je cite, les comportements provocateurs et irresponsables d'une frange minoritaire de la jeunesse. Mieux répondre aux aspirations de cette génération implique d'organiser le dialogue entre l'islam et l'État à un double niveau, national et départemental. Des propos d'Emmanuel Macron qui est revenu sur le rôle du Forum de l'islam de France lancé en février. Il s'agit, a-t-il dit, de faire vivre l'unité républicaine à travers la diversité des cultes et des pratiques. Regard à présent sur la représentation d'Alger au XIXe siècle. La représentation de cette ville établie par les colons au cours de leur voyage, gros plan sur cette perception via les guides touristiques, la littérature et la presse, avec Siem Bella, professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Roubaix, doctorante en histoire contemporaine. Sa thèse porte sur les pratiques et usages de l'espace urbain à Alger au XIXe siècle. Entretien avec Siem Bella.
Je me suis intéressée dans le cadre d'une recherche que j'ai menée en master, dans le cadre d'un mémoire, et en doctorat, dans le cadre d'une thèse, à Alger, à l'histoire d'Alger au XIXe siècle. Pour ce qui était de ma première recherche, je me suis penchée sur le voyage à Alger des Français, au prisme notamment d'une source en particulier, les guides touristiques, donc entre 1830 et 1962, des bornes qui correspondent à l'occupation française de l'Algérie. Et on peut tout à fait compléter ces sources, qui, voilà, dans une perspective d'histoire culturelle notamment, par la littérature, le cinéma ou encore la peinture.
Qu'est-ce qui est frappant dans cette représentation établie par les colons ?
Ce qui est frappant dans les représentations établies par les colons de la ville d'Alger au cours de leur voyage, c'est vraiment leur dimension très coloniale, c'est-à-dire qu'ils relaient, ils intègrent des représentations et un imaginaire de la ville qui est très stéréotypé et qui est largement répandu à ce moment-là. La ville coloniale ainsi que les aménagements qui y ont été réalisés par les Français sont particulièrement valorisés. On compare assez facilement la ville d'Alger à celle de Paris, vraiment la figurant comme une porte d'entrée de l'empire colonial français en Afrique.
Une porte d'entrée coloniale donc vers l'Afrique avec une forme de négation de la Méditerranée.
Négation de la Méditerranée, oui, dans la mesure où la mer Méditerranée fait plutôt office de centre naturel que de frontière. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les sources. Il n'y a plus de Méditerranée. On a vraiment l'idée de continuité entre le territoire métropolitain et la colonie de peuplement qu'est l'Algérie, une continuité qui est permise par des conditions de voyage qui sont toujours plus aisées, des traversées de la Méditerranée, donc pour le 19e siècle, qui sont toujours plus courtes, toujours plus rapides, toujours plus fréquentes. Et puis, bien sûr, un peu plus tard, pendant la période, dans les années 1930, une liaison aérienne aussi qui est permise et qui permet, en très peu de temps, quelques heures, une poignée d'heures, de passer de Paris à Alger. Donc effectivement, une Méditerranée qui est en quelque sorte gommée, qui fait figure de centre, de lac français, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la Mare Nostrum romaine, une Méditerranée qui est vraiment envisagée comme un espace interne à l'empire colonial français.
Vous évoquez également le déplacement à Alger de personnalités comme Karl Marx, par exemple. Pourquoi ces personnalités venaient à Alger ?
Karl Marx s'est rendu à Alger dans les années 1880, un an avant sa mort. Il y a fait un séjour dans la perspective de se soigner, parce qu'il était atteint de maladies pulmonaires et donc espérait les bienfaits du climat d'Alger pour se soigner. Il s'agit d'un type de tourisme qu'on appelle l'hivernage et qui consistait au XIXe siècle, jusqu'à la Belle Époque, donc jusqu'au déclenchement, on pourrait dire, de la Première Guerre mondiale, d'une mode qui consistait à se rendre au soleil l'hiver, et qui était notamment le fait des Britanniques. C'est la raison pour laquelle, à Alger, on trouve un hôtel hein, qu'on surnomme encore de cette manière, même s'il a été rebaptisé après l'indépendance, l'hôtel Saint-Georges, qui se trouve sur les hauteurs de la ville, Georges sans S, pour justement sonner plus britannique aux yeux d'une clientèle anglophone qui était visée. Donc, mode de l'hivernage qui consistait, pour ces touristes assez fortunés, hein, il faut le dire, qui consistait à se rendre au soleil en plein hiver.
Un autre aspect intéressant, c'est la représentation des femmes.
Oui, dans les sources étudiées, à commencer par les guides touristiques, les femmes dites indigènes, on peut y mettre des guillemets, sont représentées très souvent de la même façon, sont l'objet de fantasmes qu'on peut tout à fait relier au mouvement artistique, littéraire et culturel qu'est l'orientalisme. Donc des femmes qui sont représentées souvent de manière très voluptueuse, lascive, offerte. Hein. On connaît ce fantasme du harem. On pense à ce fameux tableau de Jeanne de la Croix et les femmes d'Alger dans leur appartement.
Et vous faites part hein, des poncifs orientalistes.
Oui, poncifs orientalistes qui sont très récurrents dans les sources dont il est question. Alors, bien sûr, une dichotomie qui est assez claire entre la ville coloniale, donc à l'européenne, et la ville dite indigène, qui est peuplée donc par les colonisés, et qui s'incarne, dans le cas d'Alger, évidemment, par la Casbah, qui, encore aujourd'hui, se trouve être le quartier où l'on trouve encore des vestiges de l'époque ottomane, qui ont été, en quelque sorte, sauvés des destructions qui ont été opérés par les colonisateurs dès leur arrivée, hein, dès les années 1830. Donc des poncifs orientalistes très focalisés sur ce quartier de la Casbah, avec la question des habitations et de la vie domestique des populations colonisées, qui est l'objet également de beaucoup de fantasmes. On a déjà parlé de cette question des femmes, hein, représentées de manière très orientaliste, souvent voilà, couchées, lascives, dévêtues, offertes en quelque sorte.
Avec des lois qui sont différentes hein, d'ailleurs entre l'Hexagone et l'Algérie.
Effectivement, puisqu'on parlait des femmes et du tourisme, on peut évoquer la question de la prostitution coloniale. Prostitution coloniale qui avait cours à Alger, et vous parliez de différences d'un point de vue législatif. Il est vrai qu'au moment où les maisons closes étaient interdites en métropole, par la loi Marthe-Richard en 1946, les maisons closes d'Alger n'ont pas fermé leurs portes, ce qui permettait aux touristes de continuer à se livrer à ce qu'on pourrait appeler le tourisme sexuel aujourd'hui, hein, et voilà, qui s'inscrivait dans une prostitution véritablement coloniale.
Et dans la représentation de cette période, lorsque l'on vous écoute, l'on ressent une forme de négation de la personne, entre guillemets, bien entendu, indigène.
Alors oui, les indigènes, entre guillemets, les populations colonisées sont de toute façon représentées comme des éléments du décor hein, qui prennent part au pittoresque de certaines scènes. Mais les auteurs de guides touristiques ne se privent pas de se livrer des diatribes très empreintes de racisme où il est question de la saleté, de la misère de ces populations indigènes qui n'auraient pas de morale. On critique aussi leur distraction. Le théâtre de rue est critiqué pour sa vulgarité. De la même façon, les cafés morts sont tout à fait déconseillés aux touristes occidentaux qui se rendraient à Alger, et dépeints comme des lieux tout à fait infréquentables pour les Européens.
Est-ce qu'une certaine littérature, certains écrivains se sont démarqués de cela et ont eu un autre regard plus juste ?
Oui, dès le 19e siècle, puisqu'on est surtout concentré sur ce siècle ici, on peut penser à Guy de Maupassant qui voyage à Alger dans les années 1880. qui écrit pour la presse à ce moment-là et qui rend compte de son voyage dans des articles de journaux métropolitains et qui critique la colonisation et ses effets négatifs.
Vous enseignez cette histoire, vous êtes professeur à Roubaix. Comment cela est perçu, ressenti par vos élèves qui, peut-être pour certains, ont des liens avec ce pays ?
Alors c'est une histoire, l'histoire coloniale, qui n'est pas toujours facile à enseigner. On a l'habitude de la désigner comme une question sensible, hein, en tout cas socialement vive, du point de vue de l'enseignement. Mais c'est aussi une période qui intéresse beaucoup nos élèves, et notamment les élèves à qui j'enseigne en lycée à Roubaix, qui sont... pour beaucoup d'entre eux, héritiers de l'immigration algérienne en France et pour qui ces questions sont vraiment très importantes, au même titre que la guerre d'Algérie, qui suscite toujours beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, beaucoup d'intérêts, notamment dans le domaine de la mémoire.
Siem Bella, professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Roubaix, doctorante en histoire contemporaine. La France a rapatrié la nuit dernière 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Une annonce ce matin du ministère des Affaires étrangères. Ces femmes font partie de Françaises qui s'étaient rendues volontairement dans les territoires contrôlés par les groupes djihadistes en zone irako-syrienne et qui ont été capturées dans la chute de Daesh en 2019. Les enfants sont pour nombre d'entre eux nés sur place. Un Palestinien recherché depuis près de 2 semaines par les forces israéliennes pour une attaque meurtrière à Jérusalem Est a été abattu hier soir, cela après avoir tiré sur des gardes israéliens à l'entrée d'une colonie en Cisjordanie occupée. Cet homme était soupçonné d'avoir abattu une soldate israélienne à l'entrée du camp de réfugiés de Shuafat. La fin du mandat du président libanais Michel Aoun le 31 octobre prochain. Une nouvelle séance parlementaire visant à élire un chef de l'État s'est tenue ce matin et comme lors de la dernière séance, il n'y a pas eu de consensus sur un candidat. Une prochaine séance est prévue lundi prochain. L'invité de Pluriel hier soir était Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du Parti communiste. Il est revenu sur la question du manque de conducteurs de bus en région parisienne, une situation qui a dégradé les conditions de transport des Franciliens, extrait de cette émission.
Ce qui se passe actuellement, ça fait 5 ans qu'on dit à Valérie Pécresse que ça va arriver. Parce que ça fait 5 ans qu'elle est engagée dans la mise en concurrence du réseau de bus à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc, ce qui se prépare, c'est qu'elle veut découper la RATP en 12 morceaux différents, mis en concurrence, et donc un dumping social. Et ça, c'est prévu pour le 1er janvier 2025. Donc, depuis des années, on lui dit, attention, avec cette mise en concurrence, les chauffeurs de bus vont se retrouver avec des salaires encore plus bas et vont partir, vont démissionner en masse. Elle nous a dit, mais non. Et la réalité aujourd'hui, c'est que c'est exactement ce qui se passe. Les chauffeurs de bus, la RATP, pour préparer la mise en concurrence, a augmenté leur temps de travail de 1 heure par jour. C'est fatigant de conduire un bus le soir, le week-end, etc. Donc, ils ont augmenté le temps de travail sans aucune contrepartie financière. Et les salaires des chauffeurs de bus, en plus, ils n'ont plus la garantie de l'emploi puisqu'ils vont être mis en concurrence. Et l'âge de la retraite a été repoussé. Donc, ils se retrouvent à travailler plus, gagner toujours des salaires bas avec beaucoup moins de garantie de l'emploi. Donc s'ils vont en province, en province, à Clermont-Ferrand, un chauffeur de bus gagne 20% de plus qu'à Paris. Évidemment, il a la garantie de l'emploi et il se retrouve évidemment avec un loyer beaucoup moins cher. Donc il y a de moins en moins intérêt objectif, hein. C'est triste, mais c'est comme ça pour les chauffeurs de bus de la RATP, travailler de la RATP. Donc moi j'étais devant un dépôt de bus en grève, en solidarité avec plein d'autres élus, plein de maires de ce coin-là vers les Lilas à Montreuil. Eh bien les salariés nous l'ont dit, les gens démissionnent en masse.
Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, membre du Parti communiste. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com à 19h et 23h sur Radio Orient. Et si on en parlait, le thème de cette émission, laïcité à l'école, pour comprendre la loi du 5 mars 2004 et son application. Les invités d'Alexis Bachelet seront l'historien Éric Anceau, auteur de Laïcité un principe aux éditions Passé Composé, et Abdelali Mamoun, imam et théologien. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash et 17h30 pour votre journal en langue française. Il est midi 19.